C'est une fille assez jeune, blonde, vêtue d'une robe rose et d'une veste en jean. Elle est assise sur une sorte de rocher dans un parc peut-être ou bien une forêt. On distingue à l'arrière-plan d'autres rochers et au sommet deux arbres. Elle a les cheveux longs, ils descendent plus bas que ses épaules et très blonds. Ce n'est peut-être pas naturel comme on dit. Elle est jeune, 18, 19 ans, plutôt jolie. Un air un peu timide, elle sourit, la tête un peu penchée, les mains posées sur ses genoux et ses jambes très légèrement écartées laissent entrevoir un peu de nuit à hauteur de son ventre. À sa droite, il y a assis un homme. On ne le voit pas, mais juste une jambe et une main posée à la pointe de son genou. Il s'agit d'une photographie. De la photographie d'un écran de télévision, on distingue les lignes horizontales du balayage. Il s'agit donc d'un film, peut-être d'un film pornographique en vérité. En face de la fille dans le film et la filmant, il y a un type qui lui dit bien sûr qu'elle est très jolie et que son copain qui est allé s'asseoir à côté d'elle a sûrement envie de faire l'amour avec elle, hein, qu'est-ce qu'elle en pense? Par exemple, est-ce qu'elle ne voudrait pas se montrer un peu? Et puis s'il s'en occupait, son copain, ça serait bien, ça ferait un truc à filmer, enfin vous voyez la scène, quoi. Est-ce que l'actrice jouait particulièrement bien ou était-elle réellement gênée? J'ai gardé de cette scène un souvenir troublant. Elle est donc photographiée. Non pas la scène en elle-même, mais seulement au début, cette fille assise sur son rocher, maladroite, très vivante en somme. Et puis j'ai mis cette image avec les autres, cartes postales de tableaux, photographies volées, images de magazines, toutes images jetées pêle-mêle dans une boîte où il m'arrive de temps à autre d'aller délicieusement me noyer. Je ne me suis jamais demandé ce qui pouvait unir ces images, si ce n'est à des titres divers l'émotion qui me les avait fait prendre, choisir, découper, scanner, imprimer, pour en faire par exemple un jeu dont la règle aurait consisté uniquement à les battre et ensuite à les jeter par exemple là sur le tapis. Je parle ici d'un trouble très puissant comme une sorte de sésame, un sortilège, une réussite composant et recomposant à l'infini les chemins de la mémoire. Il entre bien sûr dans ce jeu une grande part de désir, assurément le plus agissant des sortilèges. Et dans le même ordre d'idées, j'ai également dans ma boîte, par exemple, une autre image prise dans Sauf qui peut la vie de Godard, image montrant assise, une jeune fille qui parle avec sa sœur. Elle se demande si elle ne va pas, comme sa sœur, se prostituer. Elle a un grand besoin d'argent pour partir, je ne sais plus où, avec son amoureux. Il y a encore dans la boîte, si j'y plonge à nouveau la main, une photographie noire et blanc, probablement tirée d'un magazine des années 1960, représentant trois enfants dévalant côte à côte un escalier du jardin du Luxembourg. Une carte postale reproduisant une image d'un évangéliaire du Xe siècle, image figurant saint Matthieu sous l'aspect d'un moine assis devant une table et écrivant, mais doté surtout d'un visage aux yeux littéralement hallucinés. Et puis ensuite le portrait de Sarah Bernhardt par Nadar. Elle est assise, tournée de profil, une cape très large lui laisse le cou et une épaule dégagée. Et puis, une photo de Sophie Kahl, un paysage de Landes écossais, l'image d'un dessin volant au-dessus d'un escalier, ça se passe à Paris, rue Bonaparte. Et je l'attire à l'instant, le très très beau visage de Paul Chenavard peint par Courbet. Ça n'en finirait évidemment pas, et d'ailleurs ça n'a pas en effet de fin, ce dévidoir où ma vie file sa trame presque en dehors de moi. Nous à la voile d'un regard levant d'un autre, coup bord à bord ce paysage et cette étreinte, les paupières de l'une aux lèvres d'une autre, façonnent formes et couleurs, font un ciel en un mur, coulent une main dans une ville, organisent en un mot non pas le hasard mais bel et bien le désir. tout ce que l'on sait et puis tout ce que l'on ne sait pas. Cette façon d'aimer ne cesse de me rouler de surprise en surprise, qui disent mieux que tout qui je suis, d'où je viens et où je vais, pour paraphraser Gauguin. Du moins pour moi, je n'en veux pas d'autre. À l'instant encore, ceci que je pioche au hasard d'un carnet, démontré par une suite d'exemples précis, premièrement qu'il existe des relations entre le hasard et le désir, deuxièmement que jamais le désir n'est subordonné au hasard, mais que le hasard est toujours au service du désir, ceci extrait de la dialectique du hasard et du désir de Fernand Dumont. Que faut-il admettre ? Le plaisir à chaque pas qui n'épouse que de l'air, un fleuve assez sale qui traverse la ville, un ciel à l'aventure, une maison trop grande et trop petite, cette saison d'Italie, un marchepied en acajou, un ciboire à peine sorti de terre, une après-midi à attendre les messages qui s'interrompent, la voix qui flanche et les corps qui rapetissent, Mozart et Sade à l'horizon, des journaux chaque soir dans la boîte aux lettres, mais rien, rien de vraiment nouveau. La belle qui en redemande, la salade pleine de terre, tout ceci qui s'épuise, la chance à tourner l'angle de la rue sous les arcades majeures d'un théâtre antique, jadis dans les cris des noyés de soleil. Je ne voudrais connaître de ma vie que ces liaisons apparemment de hasard, que la main qui aime est piochée dans la boîte, que les yeux clos qui découvrent longtemps après, image par image, ce qui s'est réellement passé. J'ai l'impression de n'être jamais exactement là, sur ce trottoir, à attendre l'autobus devant la poste. Il y aurait d'ici l'image d'un épouvantable accident. Ni là, assis sur un banc au bord d'un lac, c'est un matin de brume très triste. J'ai l'impression que ces images ne sont que surface, par défaut en quelque sorte, d'autre chose que de prime abord on ne saurait connaître et qu'il faudrait chercher. Chercher, ou plus exactement guetter.